L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Pour cette semaine, malheureusement Alexandre n'a pas pu se rendre disponible, donc ce sera une petite émission en solo pour changer d'habitude. Donc comme toujours, ce sera les actualités des dernières semaines écoulées, avec un petit peu de musique libre par-dessus tout ça. On va tout de suite commencer avec, parce qu'on en a beaucoup cette semaine, on a pas mal d'actualités judiciaires, notamment des actualités en provenance des États-Unis. Donc ça nous réjouit pas forcément, mais il va bien falloir couvrir ça, et si un juriste souhaite intervenir un jour parce qu'on dit trop de conneries sur le sujet, faut surtout pas hésiter à nous contacter. Donc on va commencer donc par nos amis de Google. Donc un tribunal américain a indiqué que effectivement Google a bien créé un monopole sur le marché de la publicité en ligne en enfreignant dans ses méthodes les lois américaines sur la concurrence en, je cite, en organisant l'acquisition et le maintien délibéré d'un pouvoir de monopole. Donc les conséquences n'ont pas encore été décidées. C'est des gros procès comme ça, forcément, c'est comme les moteurs, c'est en deux temps. Donc là, ils ont acté que c'était une faute de la part de Google. Maintenant, quelles vont être les conséquences? Ce qui est attendu le plus, enfin ce qui est à la fois attendu et un peu craint, on en reparlera un petit peu, c'est une séparation des différentes parties de Google. Donc aujourd'hui, Qu'est-ce que ça change rien? Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Alors, est-ce que ça va être l'obligation de séparer les publicités de la recherche? Est-ce que ça va être la scission, notamment de Google Chrome? Avec quelles conséquences? Qui est prêt à racheter Chrome? Etc. etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à voir autour de tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Sachant que, Google avait tenté de s'acheter les bienfaits du pouvoir américain, donc notamment en participant à la grande fête d'inauguration de Trump. On peut voir que ça leur a pas réussi pour cette fois, mais à suivre. Donc en tout cas, maintenant on peut dire que Google est en position de monopole, et c'est validé par la justice américaine à minima. Donc les chiffres, c'est 87% de la publicité en ligne qui passe par Google. Quand on sait que Internet est financé massivement par la publicité, 87% de tous les financements Internet quasiment passent par Google, c'est assez colossal, et c'est pour ça que Google a pu se construire tel qu'ils sont actuellement. Et donc, Google n'est pas la seule entreprise à avoir des petits problèmes face à la justice américaine suite à différentes activités. Une autre entreprise, c'est Meta. Donc, pour l'instant, le procès est en cours, les débats vont avoir lieu. La plainte initiale date de 2020, donc Meta, donc petit rappel, c'est Facebook, mais c'est aussi Instagram, WhatsApp et 2-3 autres. Le problème, c'est que ce n'est pas Facebook qui a développé Instagram et WhatsApp. Ce sont deux services qui sont arrivés séparément et que Meta a racheté en 2012 et en 2014 pour Instagram et WhatsApp respectivement, donc pour un petit total de 20 milliards de dollars. Et le problème, c'est que en faisant cet achat, leur but était de créer un monopole. Et donc la FTC, donc la Federal Trade Commission, estime que le montant pour l'achat d'Instagram était surévalué et en fait servait à neutraliser un concurrent plutôt qu'à acheter un produit à sa juste valeur. Parce que c'est assez facile quand c'est comme ça. Vous avez un concurrent qui apparaît sur le marché, vous le rachetez avant qu'il ait pu vous créer de vrais problèmes. Et comme ça, vous êtes sûr de rester toujours là. Maintenant, donc, quelles vont être les conséquences de ce nouveau procès? On ne sait pas encore. En plus, là, pour le coup, il y a des des éléments, on va dire, qui servent à appuyer l'accusation, notamment une citation de Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, donc une citation de lui en 2008, « Mieux vaut acheter que rivaliser ». Et donc là, ben, en l'occurrence, racheter ben, tous les concurrents potentiels, ça a des conséquences assez graves, puisque ben, ça les a mis en situation de monopole. Donc, à suivre. Maintenant, sachant que ben, l'agence, la FTC, donc, qui est une agence qui est ciblée par ben, Trump et ses amis, on ne sait pas quelles vont être les conséquences de tout ça. Une autre pour la route, parce que ben, on n'a pas fini. Aux États-Unis, donc là, c'est Apple qui était ciblé par la justice. Et donc là, maintenant, on a les conclusions. On en a beaucoup parlé dans cette émission parce que ben, c'est une affaire qui date d'il y a plusieurs années maintenant. C'était notamment le procès Apple contre Epic. Donc Epic, le fondateur d'Epic se réjouit de la décision de justice. Mais donc, pour rappel, l'affaire a commencé notamment avec Epic qui a accusé Apple d'imposer le passage par l'App Store pour avoir la taxe payée à Apple de 30% sur chaque opération réalisée dans les applications. Et donc, pour une entreprise comme Epic qui fait des jeux vidéo disponible gratuitement avec des mini-transactions dans l'application, cette taxe Apple mettait à mal tout leur business model. Et donc, ils avaient décidé de se retirer des iPhones en attendant que Apple accepte enfin d'avoir des applications qui ne passent pas par cette taxe. Et donc, on en a parlé il y a quelques temps. Il y a eu une première tentative d'ouverture de la part d'Apple avec les Core Foundation Fee, notamment, où en fait, ils disent « Ok, vous faites autrement, vous passez pas par chez nous, mais on vous impose une taxe de 27%. » Au titre de « Ah ben, c'est quand même nous qui avons fait une mise en relation, tout de même. » Et donc, le tribunal a indiqué que, tout simplement, ils avaient fait une injonction à Apple d'ouvrir et d'autoriser les développeurs d'informer l'existence d'alternatives au système d'achat intégré. Donc c'était une injonction de la part de la justice, et injonction à laquelle Apple n'a pas donné suite, en tout cas n'a pas répondu de manière positive. Donc la justice là, a tout simplement expliqué à Apple que, ben, en fait, une décision de justice, vous devez vous y plier, c'est tout. C'est une injonction, et ne pas répondre à ça, c'est de l'insubordination. Diminuer ça, ça aggrave la situation. Et donc, là, ils estiment aussi qu'il y a eu des mensonges sous serment de la part des fondateurs d'Apple, de la part des dirigeants d'Apple. Et donc, quelles vont être les suites? On n'a pas encore tous les détails, parce que ben, Apple, là, se retrouve un peu tout penaud et vont devoir remettre en question beaucoup de choses. Et quelles vont être les conséquences en Europe, sachant qu'en Europe, ben, on a la Commission européenne qui a estimé que c'était la même chose que les Core Technology Fee. Voilà, je me suis trompé tout à l'heure, c'était pas Foundation, c'est Core Technology Fee et d'autres éléments que Apple, on en avait parlé dans cette émission, c'était des éléments qui avaient été introduits avec une certaine mauvaise foi tout de même pour répondre au DMA, donc aux réglementations européennes. Clairement, Apple se fait réprimander de la même façon aux États-Unis et en Europe, donc il va y avoir une évolution à suivre. On va continuer un tout petit peu en justice, même si c'est un peu lourdingue comme sujet. Nous avons aux États-Unis un procureur trumpiste qui a décidé de menacer Wikipédia. Donc la fondation Wikimedia a reçu une lettre lui demandant de rendre des comptes. Donc, parce que il l'accuse de commettre des actions susceptibles de violer ses obligations en tant que société à but non lucratif. Donc, en fait, ils accusent l'encyclopédie de permettre à des acteurs étrangers de manipuler des informations et diffuser de la propagande auprès du public américain. Donc, je cite encore une traduction de la lettre en question. Wikipédia autorise la manipulation d'informations sur sa plateforme, y compris la réécriture d'événements historiques clés et d'informations biographiques sur les dirigeants américains actuels et antérieurs, ainsi que sur d'autres sujets relatifs à la sécurité nationale et aux intérêts des États-Unis. On va avoir un gros problème, donc, là-dessus, puisque Wikipédia est une encyclopédie qui cherche à donner la vérité en se basant sur différentes sources, etc. Si nécessaire, en mettant des annotations comme quoi des sujets sont sujets à controverse temporairement ou sur la durée. Là, maintenant, cette façon de s'y attaquer en estimant que le but non lucratif n'est pas établi, ça va être un gros problème pour tout le financement de Wikipédia. Donc, on a un gros sujet à suivre là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas de suite à donner, juste on vous annonce qu'il y a un problème là-dessus et la justice américaine va sûrement devoir trancher et ça va être assez intéressant à suivre. On se sert une dernière de justice encore et après on va se prendre un premier morceau de musique parce que ces sujets-là sont quand même un peu pénibles à écouter. Une dernière, donc TikTok a été condamné en Europe pour non-respect des réglementations sur la vie privée. Et je voudrais juste pointer, c'est une analyse qui a été faite sur le site d'OS News et que je trouve plutôt intéressante. TikTok a été condamné par la justice européenne à 530 millions d'euros d'amende. Est-ce beaucoup ? 530 millions, c'est énorme. Mais en fait, ça correspond à 2,65% des revenus annuels de TikTok. Si on compare avec, alors là, l'auteur de l'article est suédois, mais voilà, grosso modo, c'est le même ordre de grandeur en France, c'est comme si vous aviez à payer une amende de 900 euros. C'est pas beaucoup. Et proportionnellement à leur chiffre d'affaires, effectivement, c'est rien de 530 millions d'euros. Donc forcément, on peut douter du fait qu'il y ait des conséquences derrière ça. À suivre, mais malheureusement, la situation là-dessus, le RGPD a beau permettre des amendes, si les différents organismes de défense de la vie privée en Europe ne vont pas aller chercher les amendes en question, ça ne va jamais donner grand-chose. On va s'écouter un premier morceau de musique, on va écouter, alors j'ai pris dans les vieilles émissions, désolé, je fais pas dans l'original, même si j'ai pris de la vieille émission. On va s'écouter Chasseur d'images de Sucre Pop, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. On se retrouve dans 2 minutes. C'était Chasseur d'images de sucre. Oh, excusez-moi. C'était Chasseur d'images de sucre pop, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, comme Sucre.com. Vous écoutez les Codec Nous. Et on va continuer avec les actualités. Après avoir fait un bon gros morceau de juridique, on va partir sur des trucs un peu plus techniques pour le coup. Et on va parler un petit peu de sécurité informatique. Et tout d'abord, on va revenir sur. Alors, c'est quelque chose qui avait été annoncé dans qui avait fait l'objet même d'une émission spéciale il y a 7 ans. C'était en janvier 2018. Souvenez-vous, Remember. Les failles de sécurité Meltdown et Spectre. On en avait beaucoup parlé. Enfin, ça méritait toute une émission parce que c'était vraiment un sujet très important. Et on en a parlé régulièrement depuis parce que ça a été la boîte de Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore sur tout un ensemble de failles de sécurité et ça a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a une petite actualité enfin qui va dans ce que je trouve être le bon sens par rapport à tout ça. Donc, on s'est rendu compte il y a 7 ans que les processeurs, en particulier Intel, mais vraiment, alors tous les processeurs avaient un ensemble de failles, mais Intel avait la plus grosse faille de très loin, qui s'appelait Meltdown, et à peu près tous les processeurs au monde souffrent de failles de sécurité de la famille Spectre. Alors, ça avait bien servi à Intel qu'il y ait une annonce de faille qui couvrait tous les processeurs, parce que comme ça, ils ne pouvaient pas dire « Oups, c'est que nous », ils disaient « Non, tout le monde a des failles ». Bref, passons. Ces failles sont plus ou moins exploitables. On en parlait, Meltdown, elle était critique de chez Critique, c'était la pire faille possible, ça remettait en question la sécurité de l'informatique telle qu'elle a été construite dans les 30 dernières années, c'était inimaginable. Les autres, les failles de la famille de Spectre, elles sont graves, mais elles ne s'appliquent pas forcément autant à tout le monde. Par exemple, sur votre ordinateur personnel, vous prenez beaucoup plus de risques avec des publicités véreuses, des sites qui vont essayer de piller vos données, d'essayer de trouver vos mots de passe de boîte mail, ce genre de choses. Ça, c'est plus grave que une faille sur le processeur qui nécessite en fait des conditions. C'est trop tard. Si ces conditions sont déjà réunies pour essayer d'exploiter cette faille, vous avez déjà perdu. Mais la configuration par défaut pour l'ensemble des systèmes, notamment Linux, ça reste de dire non, on bloque les failles en question. Il n'y a pas de demi-mesure. On bloque toutes les failles de sécurité. Le problème, c'est que bloquer ces failles, vu que c'est des failles au niveau du processeur, ça a un coût en performance qui est non négligeable. Et donc là, il y a un travail qui a été lancé par des ingénieurs d'AMD, donc le fabricant de processeurs, pour rendre plus fine la protection contre les failles de sécurité au niveau du processeur. En fait, pour pouvoir dire contre quoi on est prêt à se protéger. Est-ce qu'on veut se protéger en mode paranoïaque, je veux me protéger contre toutes les failles possibles, ce qui est le mode en fait actuellement par défaut. Est-ce que je veux me protéger uniquement contre ce qui pourrait concerner des attaques sur des machines virtuelles? Ou est-ce que ça, justement, je m'en fiche? Est-ce que je veux me protéger vraiment contre des attaques telles que des Google, Amazon ou autres vendeurs de cloud voudront se protéger, mais moi, sur mon ordinateur personnel, ça ne me concerne pas, je n'en ai pas besoin. Et en fait, avec ce découpage-là, ça permettra à tout le monde de dire, sur mon ordinateur personnel, non, c'est pas une machine à laquelle tout le monde peut avoir accès à travers le cloud et où donc il faut s'assurer que chaque personne soit bien isolée les unes des autres. Ma machine, c'est un ordinateur de bureau, donc j'ai besoin d'être protégé contre les failles les plus critiques, mais pas les autres. Et ça va permettre d'améliorer les performances. Parce que ces dernières années, il y a eu quand même. Alors, les machines modernes sont plus puissantes, mais une machine, si vous prenez un processeur d'il y a 10 ans, vous avez un ensemble de correctifs qui ont été appliqués dessus et qui réduisent ses performances. De fait, les performances sont moindres. Alors, je ne dis pas de tout désactiver, justement, il y a des failles pour lesquelles il faut garder la protection active. Mais au moins, maintenant, il y a ce mécanisme-là qui est en cours de développement, qui pourrait bientôt arriver. Donc, il pourrait être introduit sous Linux, là, dans les prochaines semaines, et donc arriver sur les distributions Linux de fin d'année. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Et une deuxième actualité en sécurité. Alors, j'avais pas fait gaffe à la date en question. C'était cette semaine, je crois, c'était la journée mondiale des mots de passe. Je suis pas trop monsieur journée mondiale, je m'en fiche un petit peu. Et c'était le premier jeudi du mois de mai. La journée mondiale du mot de passe. Et Microsoft l'a célébré d'une façon un petit peu spéciale cette année. Et donc, ils ont décidé de retirer encore plus les mots de passe qu'avant. Désormais, donc, la création de nouveaux comptes seront par défaut sans mot de passe. Et ils vont plutôt proposer des alternatives pour que les utilisateurs n'enregistrent pas de mot de passe et qu'ils aient d'autres solutions. Donc, ça peut être des passkeys. Donc les passkeys, en fait, c'est une solution dont on a déjà parlé à plusieurs occasions. C'est des clés d'accès. Donc c'est des logiciels que vous utilisez au niveau de votre téléphone notamment. Donc c'est plutôt fiable, ça marche plutôt bien et ça permet d'éviter d'avoir à générer des mots de passe un peu partout. Alors ce que Microsoft va mettre en avant aussi, c'est les YubiKey avec des OTP, ce genre de choses. Il y a plein de solutions alternatives aux mots de passe. Donc, pour une fois, c'est très bien d'avoir Microsoft qui met ça en avant, même si on peut toujours craindre qu'ils mettent en avant de la même façon que Google fait croire que seule sa solution de gestion de mots de passe sert à faire des mots de passe. Alors, je me souviens même plus comment ils le nomment, mais pour avoir un second facteur d'authentification sur Gmail et autres, donc avoir un complément du mot de passe. Je crois qu'ils appellent ça leur Google Authenticator, alors qu'en fait c'est une solution tout à fait ouverte et libre, et n'importe qui peut fournir une solution alternative à cette dernière. Mais bon, au moins ils utilisent une solution standard, contrairement à de nombreuses banques notamment. Et une dernière en sécurité qui concerne plus la sécurité fonctionnelle du libre sur Internet. Et on en parlait déjà il y a quelques semaines, de plus en plus de bots sur Internet, de plus en plus de trafic est automatisé sur Internet, notamment tout ce qui est apprentissage de l'intelligence artificielle, donc avec les grands modèles de langage qui ont besoin de scanner toute une partie du web, mais pas que. Et donc aujourd'hui, on estime que 51% du trafic web a été généré par des bots. Donc dans ce trafic, 14% du trafic mondial, donc ça a été fait par des bots qui sont considérés comme corrects, et 37% par des bots néfastes. Donc ça peut être de la recherche de failles de sécurité, ça peut être de l'indexation abusive, ça peut être plein de choses, mais c'est en aucun cas des bots légitimes. C'est ce qu'on appelle des bots malveillants. Donc c'est assez inquiétant parce que ça veut dire que si vous hébergez un site web, vous avez la moitié du trafic qui correspondrait à juste du spam. Et dans le lot, on a des pratiques de scalping, ce genre de choses aussi. Donc ça aussi, ce sont des bots malveillants. On va s'écouter un deuxième morceau de musique et après on va se faire une petite dégeekalisation pour se changer les idées. On va écouter Smile de Boogie Belgique, toujours sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Smile de Boogie Belgique, toujours sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre, et fréquence6.com. C'est la suite de l'écho des gnous. Et on va se faire une petite dégigalisation. Aujourd'hui, je vous propose un petit sujet fort rigolo. On a inventé l'heure pour ne plus avoir le temps. On va parler de l'heure. Petite devinette pour ceux qui sont à la maison et qui ont un petit bout de papier devant eux, et surtout qui ont le temps de faire une recherche en même temps. Oh pardon, excusez-moi, le micro, il s'est pris une baffe. Le 26 octobre de cette année, à 2h30, heure de Paris, quelle heure sera-t-il en UTC? Donc je vous laisse griffonner ça, vous avez une petite minute normalement pour trouver la réponse. Alors, pendant ce temps, on va continuer un petit peu à expliquer les questions autour de tout ça. Donc, petit point de départ, l'heure UTC, donc le temps universel coordonné, hein, l'heure TUC, hein, mais on n'a jamais mis les lettres dans le bon ordre, que ce soit en français ou en anglais. En anglais, on devrait dire UCT, et en français, on devrait dire TUC, et on dit UTC dans les deux cas. C'est un peu bizarre, mais que voulez-vous. Et donc, cette heure-là, c'est la seule heure qui ne bouge jamais. C'est-à-dire qu'elle n'est pas impactée par les fuseaux horaires, et elle n'est pas impactée, pour revenir sur ma première question, par le passage à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Elle s'incrémente de façon monotone. On s'amuse à glisser des secondes intercalaires, mais on va même pas en parler, c'est trop compliqué ce point-là. On va juste se dire, cette heure-là, elle bouge pas, elle est bien. Le problème, c'est que là, la question que je vous ai posée avant, donc le dimanche 26 octobre 2025 à 2h30, quelle heure est-il à l'heure UTC? On ne peut pas répondre à cette question. Parce que cette question n'est pas assez précise. Pour connaître l'heure réelle, l'heure universelle, l'heure UTC, il faut savoir non pas une heure locale plus un lieu, mais en plus savoir où est-ce qu'on se situe dans ce lieu en termes de fuseau horaire, parce que ben, l'heure d'hiver, l'heure d'été, c'est en quelque sorte un changement de fuseau horaire. C'est un changement de notation. Et donc, cette information-là, si on ne l'inclut pas dedans, eh ben, on a un premier problème. Et donc, la deuxième information, évidemment, ça, celle-là, je l'avais inclus, c'est quel était le fuseau horaire? Où est-ce qu'on était pour avoir cette information d'heure? Alors, à quoi ça sert tout ça? Parce que bon, nous, l'heure, on n'y pense pas forcément. Voilà, c'est l'heure pour prendre un rendez-vous, c'est l'heure pour aller quelque part, c'est l'heure pour dire, bon, ben, il est temps de manger, il est temps d'aller se coucher, il est le temps d'aller écouter une émission de radio, ceci, cela. Eh bien, il m'est apparu, il n'y a pas très longtemps, que ben, d'autres gens s'étaient rendus compte que ça servait à quelque chose, l'heure, et y compris des non-informaticiens, et donc je voudrais leur expliquer à quoi ça sert la bidouille qu'ils ont faite. Donc, à quoi sert l'heure sur nos systèmes informatiques? Elle sert à plusieurs choses. Elle sert à savoir quand déclencher certaines tâches. Et donc, mine de rien, il y a des tâches qui doivent se déclencher, mettons, au bout de 30 secondes. Vous avez essayé d'afficher une page web, au bout de 30 secondes, elle ne s'affiche pas. Votre navigateur affiche un message d'erreur plutôt que d'essayer ad nauseam d'afficher une page qui ne se chargera jamais. Autre élément beaucoup plus important, vous connectez sur ecodegnou.org. Et votre navigateur va comparer l'heure courante de l'ordinateur et dire, alors, ecodegnou.org, il me donne un certificat pour dire, oui, je suis bien ecodegnou.org. Et ce certificat est valable du 1er mai au 30 mai, du 1er mai 5h du matin au 30 mai 5h du matin. Est-ce qu'on est bien dans cet intervalle-là, en heure UTC? Évidemment, sinon c'est vraiment le chaos à gérer. Oui, donc j'accepte le certificat. Non, ok, ce certificat n'est pas encore valide ou est devenu invalide, il a expiré. Et donc, si le certificat n'est pas valable, il ne faut pas aller sur le site. En théorie. En pratique, bon, il y a d'autres discussions à avoir autour de tout ça. Et maintenant, je voudrais parler un tout petit peu de contrôle parental. Voilà, ça débarque. Il m'est apparu que certains fabricants de téléphones portables mettaient en avant un contrôle parental, mais ne pensaient pas à brider le changement d'heure sur le téléphone portable en cas de contrôle parental. Alors que, pour le coup, si je devais concevoir un système de contrôle parental où on peut limiter la durée d'utilisation du téléphone, le nombre d'heures par jour, et où il peut y avoir des rapports d'utilisation qui sont faits à des serveurs centraux. L'une des premières fonctionnalités qu'il faut brider dans ce cas, c'est les options autour de l'heure et de la date. On ne doit jamais pouvoir changer la date et l'heure du téléphone, puisque sinon, plusieurs choses. Vous, parents responsables ou autres, définissez un temps d'utilisation d'écran. Vous dites l'écran peut être utilisé 2 heures maximum par jour. Mais là maintenant on a changé de jour, maintenant on est le 30 octobre 2050. Bon ben voilà, on a à nouveau droit à 2 heures. Puis, maintenant on est le 1er décembre. Bon, ben, on a nouveau droit à 2 heures, etc. etc. Ben oui, il suffit juste de dire au bout d'1h30, 1h50 d'utilisation, hop, je rechange la date. Ben oui, c'est aussi con ça. Et pour le coup, c'est un vrai bug sur le contrôle parental d'au moins un fabricant de téléphone portable. Autre exemple, le téléphone portable fait des signalements à des serveurs centralisés pour dire il y a telle application qui est utilisée autant de temps aujourd'hui, et puis celle-là. Sauf que quand il se connecte au serveur, le serveur lui dit voici mon certificat qui est valable du 1er mai 2025 au 30 mai 2025. Ah ben ouais, mais moi je suis en 2050, là, ce certificat n'est pas valable, j'envoie pas mon rapport. Voilà. J'ai pas d'autres explications que de dire il faut vraiment être con pour ne pas avoir bridé de base le champ de demandeur sur le téléphone portable en cas d'activation du contrôle parental. C'est un oubli majeur de la part d'au moins un fabricant. Donc, pour les parents qui nous écoutent, interdisez à vos enfants, si vous avez un contrôle parental et que vous tenez à ce que ce dernier fonctionne, restreignez l'accès au changement d'heure et de date, parce que sinon, c'est le moyen le plus simple de contourner le contrôle parental sur ces téléphones. Et c'est complètement con que ça ne soit pas bridé avant. L'heure, c'est hyper important. On s'en sert tout le temps. Tout dépend de l'heure et tout dépend de la date. Et ne pas avoir la bonne date, ne pas avoir la bonne heure, on ne peut plus. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus. Et donc, sur un téléphone portable, pour le contrôle parental, ça a ces conséquences-là. Je ne vous parlerai pas des autres cas d'usage rigolos qu'il pourrait y avoir sur bidouiller l'heure. Par exemple, quelle est l'heure qui est indiquée dans un mail quand vous le recevez? C'est l'heure que le logiciel, la personne qui a écrit le mail, a mis dans le mail. Donc le mail pourrait très bien être indiqué comme ayant été envoyé dans 2 jours ou il y a 3 jours pour dire « Non, j'ai répondu dans les temps. » Non, c'est pas vrai, non. Le mail, il a mis 3 jours à arriver. C'est pas garanti. Ça, ce pipeau-là, il est assez facile à voir si vous regardez. Chaque étape de transit du mail, c'est comme lorsque vous avez un suivi de courrier de la poste ou autre. Vous avez le suivi des différentes étapes avec la date et l'heure de chaque étape. Donc, vous pouvez très bien voir que, ton mail, c'est marrant, il est arrivé au bout de 3 jours seulement au premier serveur. C'est étonnant. Ou au contraire, on peut dire, effectivement, et entre les 2 serveurs, il y en a un qui a attendu 3 jours avant de délivrer le mail. Il l'a bloqué, il l'a mis en liste grise temporairement, ou que sais-je encore. Et donc voilà, ce petit sujet sur l'heure et le temps. C'est un sujet compliqué. Tous les développeurs qui s'amusent à redévelopper ça le font mal. Il n'y a pas d'autre mot, c'est extrêmement compliqué de développer correctement la gestion de l'heure sur un ordinateur. J'ai même pas parlé des secondes intercalaires qu'on a introduit, histoire de dire, c'est pas pile poil 365,245 jours, il y a un petit delta encore qui traîne de temps en temps, donc on rajoute des secondes, donc vous avez des minutes qui durent 60 secondes, qui durent 61 secondes, pardon, donc vous avez, après... minuit 58 secondes, 59 secondes, 60 secondes, minuit 1 minute. Ça, ce genre de truc-là, c'est source de bugs en cascade. Je vous parle pas non plus des bugs pour certaines personnes qui laissent des ordinateurs en production avec des heures locales et du coup qui se retrouvent avec des heures en double. Puisque 2h30 du matin, ça existe 2 fois un jour dans l'année. Ou ça n'existe pas un autre jour de l'année d'ailleurs. Et donc ça crée aussi d'autres problèmes. Vous pourriez très bien imaginer avoir des sauvegardes qui ne fonctionnent pas à cause de ça. L'heure UTC est la plus simple pour beaucoup d'opérations. C'est juste pour nous, petits humains, cette heure-là, elle est un petit peu plus compliquée à comprendre. C'était tout pour cette dégeekalisation. On va s'écouter un troisième morceau de musique avant de refaire un petit peu d'actualité logicielle et un petit pot pourri. On va s'écouter un petit box de Tula, toujours sur Radio Campus 106, la radio de Mickaël, et campuslille.com. A tout de suite. C'était Empty Box de Tula, toujours sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre et campusil.com. On va se faire quelques dernières actualités logicielles, matérielles et un petit pot pourri de diverses actualités des dernières semaines écoulées. Alors, c'est la saison, on arrive au mois de mai. Donc nous avons droit aux sorties des distributions du printemps, donc... On a eu Fedora 42, Mint, je ne sais plus quelle version, je crois. Mint ou Manjaro, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié de la noter celle-là. Ubuntu 25.04, etc. Alors, pas grand-chose de majeur à dire sur ces distributions. Enfin, comme d'habitude, une mise à jour d'un peu tous les logiciels. L'effet les plus notables, du côté d'Ubuntu, c'est l'apparition d'une image pour ARM64, pour les ordinateurs ARM64. On en parlera à l'occasion dans une prochaine délocalisation. On parlera un petit peu de ce qui pose problème avec ces fameux ordinateurs-là qui n'existent pas vraiment pour l'instant à cause des problèmes en question. Et du côté de Fedora, le changement majeur, c'est que désormais, l'édition GNOME et l'édition KDE sont considérés au même niveau, alors qu'avant l'édition GNOME était l'édition mise en avant de Fedora. Donc désormais, sur le site de Fedora, normalement, les deux distributions sont mises sur un pied d'égalité. Donc c'est une grande nouvelle, parce que bah, effectivement, ça faisait un certain temps qu'il était demandé à ce que la version KDE soit vraiment mise en avant comme étant tout aussi utilisable. Autre actualité logicielle, alors une petite distribution dont on ne parle pas beaucoup, parce que bon, j'avoue que c'est pas non plus la distribution la plus utilisée au monde, et en tout cas je serais surpris que beaucoup de gens utilisent ça. Il s'agit d'une nouvelle version de FreeDOS. Oui, FreeDOS. Donc une version libre de DOS, le système d'exploitation des années 80 et tout début des années 90 pour les plus rétrogrades de l'époque, ou plutôt pour les gens qui avaient besoin de plus de ressources que ce qu'offrait Windows. Et donc FreeDOS est une distribution libre de DOS avec tout un ensemble de logiciels, et donc ben voilà, il y a tout un ensemble de correctifs dans cette nouvelle version. Et donc ils ont un petit problème, ils ne sont pas encore entièrement compatibles avec certaines versions de Windows de l'époque. J'avoue, j'aurais dû noter les détails de compatibilité de FreeDOS. Je pensais les retenir, mais j'y suis pas arrivé. Je crois qu'il y a une des éditions Windows, je me demande si c'est pas la version Power Workgroup qui ne marche pas sur FreeDOS, mais la version de base fonctionne, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc pour ceux qui souhaitent faire tourner des vieux jeux, des vieilles applications, ou qui souhaitent ressusciter de vieux ordinateurs, bref, ceux qui veulent faire du vieux, voilà, vous avez FreeDOS qui fonctionne très bien pour cet usage et qui est un DOS libre. C'est toujours bon à prendre. Ça peut aussi servir si vous avez à mettre à jour certains composants d'ordinateurs qui nécessitent d'avoir un DOS pour ça. Pour continuer à parler de retour vers le passé, alors, moi, c'est un vieux souvenir des années 90 pour moi, donc autant dire que pour beaucoup d'auditeurs, ça doit être vraiment antique. À l'époque, lorsqu'on installait une application sur le PC, il était très fréquent, très 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 fréquent, alors sur le PC Windows, hein, soyons précis, il était extrêmement fréquent que l'application précharge quelque chose au démarrage de la machine. Donc je me souviens de la suite, c'était la suite Corel avec WordPerfect et je sais plus quels autres logiciels qui se préchargeaient au démarrage du PC familial. Il y avait une option là, lorsqu'on installait Microsoft Office pour que Microsoft Office se précharge aussi de la même façon au démarrage du PC. Et chacun s'amusait à se précharger, donc le PC mettait un temps infini à démarrer et on était obligé de les quitter un à un ou de trouver comment les désactiver proprement, etc. Cette époque-là a disparu progressivement dans les années 2000 avec l'amélioration de la puissance des PC, de la taille des disques durs et de la vitesse du stockage surtout, et la disparition finalement des disques durs pour le remplacement par la SSD. Et bien Microsoft a décidé de revenir vers le passé, et donc dans une prochaine version de Microsoft 365, ils vont introduire le Startup Boost qui va permettre, dans certains cas, ils vont précharger Microsoft Office au démarrage du PC. Comme si, ben, en fait, tous les PC avaient des ressources à gaspiller de nos jours. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein, puisque là, les PC qui ciblent, c'est il faut avoir au minimum 8 Go de RAM. Ce qui n'est pas tant que ça pour un navigateur web moderne. Et donc, ben, votre PC, si vous avez Office installé, ben, vous ne l'utilisez pas souvent, ça pourra valoir le coup de désactiver ça. Mais petite blague supplémentaire, on pourra désactiver le chargement automatique, mais à chaque mise à jour d'Office, la tâche se réactivera automatiquement. Voilà, Seules les politiques de groupe, donc une fonctionnalité en entreprise, permettront de désactiver réellement le rechargement de manière définitive. Merci Microsoft pour ce choix. Alors, je vois qu'on a un petit peu de temps. Il y en a une petite actualité que j'avais glissée qui était passée dans mon radar et que je trouvais ça assez rigolo. Donc, on va en parler. Il y a les utilisateurs de la box d'un opérateur. Donc, bon, je ne vais pas donner les noms, hein, mais ça pourrait concerner n'importe quelle box. Sur la box en question, on peut brancher un disque dur pour avoir une fonctionnalité de stockage en réseau. Mais il se trouve que quand on branchait un disque dur USB 3, le Wi-Fi était fortement perturbé. Alors, ça peut... Qu'est-ce qui se passe ? Et là, le correctif qui est mis en avant par l'opérateur en question, c'est de dire, lorsqu'on branche un disque dur USB 3, en fait, ça le limite au débit et au fonctionnement USB 2. Donc, quel est ce merveilleux problème ? Eh bien, pour cela, nous allons faire un tout petit, surtout que c'est pas ma matière préférée, on va parler un tout petit peu de théorie du signal. Il n'y a pas de magie. Le Wi-Fi, il y a deux bandes de fréquence. Là, en l'occurrence, c'est la bande des 2,4 GHz, qui est la plus utilisée pour le Wi-Fi. Et le problème, c'est que lorsque vous avez un signal qui est émis en USB 3 à côté, l'USB 3 utilise les mêmes fréquences. Certes, le signal est émis sur un fil, mais ça ferait des perturbations autour. Et ça perturbe donc la bande de fréquence des 2,4 GHz. Et ça perturbe le Wi-Fi. C'est physique. Le signal est envoyé à une mauvaise fréquence, enfin à une fréquence qui est valide vis-à-vis de la norme USB, mais la proximité avec l'antenne Wi-Fi fait que ça crée de fortes perturbations. Il n'y a pas de solution miracle à ça, c'est les lois de la physique. Et l'opérateur, en fait, dans la conception de sa box, c'est tout simplement une erreur. C'est le placement des fils et des ports qui fait que c'est trop près et c'est pas assez protégé, c'est pas assez blindé, donc il y a perturbation. Après, pour la défense de l'opérateur, si vous aviez le disque dur branché avec un câble qui passe juste à côté de l'antenne, peut-être que ça provoque le même problème. Parce que le câble passe juste à côté de l'antenne et ça crée une perturbation. On en parlait avec un pote il n'y a pas très longtemps, c'est vrai qu'on l'entend plus trop souvent. Mais avant, lorsqu'on avait le téléphone portable qui recevait un SMS, s'il était posé à proximité d'une enceinte, on entendait un bip. Ça sonnait, on entendait une perturbation parce que le signal GSM perturbait le fil à proximité et ça pouvait être audible. Ça pouvait faire un son audible sur une enceinte. La joie des interférences électromagnétiques. Et donc là, on en a une belle du côté de cet opérateur. On va continuer un petit peu, on va retourner sur du logiciel un petit peu. On a Lenovo aux États-Unis qui a commencé à mettre en vente plus d'ordinateurs avec une petite case à cocher pour réduire le prix donc de 140 dollars américains ou 211 dollars canadiens. C'est tout simplement le prix de la taxe Windows. Donc, il y a 20 ans, on s'en plaignait, on disait que c'était n'importe quoi, que ça augmentait à mort le prix des PC. Microsoft et certains fabricants qui disaient « Mais non, c'est pas vrai, ça augmente de 5 ou 10 euros, et puis c'est tellement plus pratique pour tout le monde que ça serait ridicule de mettre deux prix séparés et de permettre de l'enlever. » On a eu les Windows Refund Day et plein d'autres événements autour de tout ça. Et donc, aujourd'hui, on a un ordinateur portable qui est vendu avec 140 dollars pour le prix de Windows. Donc on est potentiellement à 10% du prix du PC pour Windows. Donc pour les utilisateurs de Linux, c'est quand même une différence notable. Ça permet de faire des petites économies si vous pouvez y penser. Puis ça permet de rappeler aux fabricants qu'il n'y a pas que Windows dans la vie. Et je rappelle qu'il existe de plus en plus aujourd'hui de fabricants de PC portables directement sous Linux. Vous n'avez pas forcément à passer par des fabricants qui vont vous préinstaller Windows et que vous allez devoir supprimer derrière. Je ne sais pas trop, on ne va pas faire de publicité pour une marque en particulier, hein, mais voilà, il y a Framework, System76, Tuxedo, je crois, et d'autres, Blue, qui fait des PC portables et qui les fait en Europe, je crois. Bref, n'hésitez pas. Et on va faire une dernière en Europe. Donc le projet de système d'exploitation pour le secteur public se confirme. Donc vraiment, il y a une vraie initiative au niveau européen pour un système d'exploitation. Alors leur but ne va pas être de redévelopper un système from scratch, mais vraiment de valider des systèmes qui vont être considérés comme acceptables pour l'Union européenne, pour les fonctionnaires européens, le tout basé sur du Linux. Et donc là, voilà, leur objectif, c'est de choisir une distribution et de la valider et arrêter de dépendre du coup de Windows sur ces postes relativement importants. Parce que surtout en ce moment, redépendre des Américains, ça pose problème, ça questionne. Autre petite nouvelle, c'est les 20 ans de l'Open Document. C'est quand même... Petit rappel, qu'est-ce que l'Open Document ? Est-ce que, j'espère que vous avez déjà fait attention, lorsque vous sauvegardez des fichiers avec LibreOffice ou OpenOffice notamment, l'extension des fichiers c'est ODF, enfin c'est ODT, ODS, ODP selon le type de fichier. Donc c'est le format Open Document qui a émergé en 2005 auprès de la Fondation Oasis pour être rapidement adopté par, alors à l'époque OpenOffice et StarOffice. Puis par donc, la suite bureautique de KDE, KOffice, adoptée par certains logiciels de GNOME, donc notamment Abbey Word et GNOME Eric, pour ceux qui se souviennent, avant d'être enfin adopté, je crois, c'est vers 2010-2011, Microsoft qui a été contraint de l'ajouter, puisque c'est un format standardisé, et donc ils ont été obligés d'ajouter le support de ce format. Et histoire de complexifier la tâche, Microsoft a à l'époque changé de format pour Microsoft Office et a créé le Office Open XML qui n'avait d'open que leur nom, hein, mais voilà, histoire de créer de la confusion et de s'assurer de pouvoir continuer à imposer leur propre format. Et donc voilà, l'Open Document a 20 ans, donc il continue d'évoluer. Donc là, il y a une nouvelle version, la version 1.4 qui devrait prochainement arriver. Ça ne mérite pas de faire des actualités sur ces sujets-là qui sont très techniques, puis bon. Il faut attendre que le format soit supporté par les différents logiciels. Mais ça a été quand même une sacrée révolution dans le monde de la bureautique d'avoir enfin un format complet et entièrement documenté. Même si on pourrait débattre longuement sur les trous qu'il y avait dans les premières versions du format parce qu'il y avait des éléments qui n'avaient pas été standardisés. Et dans la vraie vie, ça posait des problèmes. Autre nouvelle diverse et variée. Alors, celle-là, elle fait un peu plus peur. On a parlé à plusieurs reprises des États-Unis et donc du Trumpisme qui fait rage là-bas. Et donc, c'est l'OSL de l'Université d'État d'Oregon qui menace de fermer, tout simplement parce que ils ont des énormes problèmes de financement. Et sans autre donation. Donc là, ils estiment qu'ils ont besoin de 250 000 dollars de donations. Sans ça, ils vont devoir mettre la clé sous la porte. Et l'OSL, c'est pas rien, on va dire. L'OSL, déjà, c'est une formation majeure pour des ingénieurs, des gens qui vont être qui vont être à fond, on va dire, dans le logiciel libre et open source. C'est aussi de l'hébergement pour différents projets. Donc ils ont hébergé pendant des années, ils ont hébergé le projet Mozilla, Firefox, l'Apache Foundation, la Linux Foundation, kernel.org. C'est des miroirs valables pour beaucoup de projets. Ils fournissent aussi une infrastructure pour Drupal, Gentoo, Debian, Fedora, PHPBB, OpenID, BuildRoot, BusyBox, Inkscape, Sync. Vraiment, c'est pas rien. Et ils fournissent en plus, pour les projets qui en ont le besoin, des machines virtuelles pour PC, mais aussi pour ARM64 et pour PowerPC, alors que de moins en moins de gens ont accès à ce genre de machines pour pouvoir tester le logiciel. Et donc, s'ils n'ont pas de financement, tout ça va devoir s'arrêter. Et là, ça va être un gros pan du logiciel libre qui va se retrouver sans domicile fixe, puisque le domicile d'un logiciel libre, ça reste son hébergement. Donc, Alors moi, j'ai pas 250 000 dollars à leur donner, mais voilà, si des entreprises, si vous connaissez n'importe quel gros bailleur de fonds qui serait prêt à financer le logiciel libre, ben voilà une solution pour le faire et qui aiderait grandement. Parce que là, il y a une vraie crainte autour de tout ça. Et enfin, une dernière petite actualité rigolote, on va dire. J'ai glissé ça comme ça pour sourire un petit peu en fin d'émission. On parlait de vieux ordinateurs tout à l'heure, et donc il y a des patchs qui ont été proposés pour le noyau Linux pour retirer le support des processeurs 486 et des premiers processeurs 586. Donc on parle de processeurs qui datent du début, de la première moitié, la première moitié des années 90, qui sont encore aujourd'hui supportés par le noyau Linux. Et donc là, le projet de supprimer ces processeurs-là, ça permettrait de retirer dans les 15 000 lignes de code du noyau Linux. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui supporte les processeurs en question, mais ça montre à quel point un projet comme Linux est capable de supporter du matériel tout récent comme du matériel antique. Et ce sera tout pour ce 283e numéro de l'Econegnou. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un petit peu plus délicat de faire l'émission comme ça tout seul, mais voilà. J'ai essayé d'animer un petit peu les choses quand même. On va se retrouver normalement dans 2 semaines. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et vous avez tout de suite rendez-vous avec Chupa Pimento. Bonne fin de journée à tous. À la prochaine. Ah. Bye.
L'Econegnou. Votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle.